Europe 1,
5h, 7h,
Mathieu Noël.
Vous écoutez Debout les copains, 2h au confluent de ces deux puissants torrents que sont l'info et l'humour. Avec à votre service une équipe de professionnels, des journalistes à cheval sur l'éthique et surtout sur la grammaire. Ici, on ne badine pas avec la langue de Molière, on se doit d'être irréprochable, ce qui explique qu'il souffle parfois, avant mes rappels de titre, un certain vent de panique dans notre studio. Une volte-face, un volte-face.
Un volte-face.
Une volte-face.
Une volte-face.
À suivre, un rubrique passionnant, celui duquel qui vous sera présenté par Fabrice Dalméda. Fabrice qui ce matin, alors qu'un espace dédié au début de l'aéronautique est inauguré à Toulouse, nous expliquera pourquoi la Ville Rose est un berceau de l'aviation.
Merci d'écouter Europe 1 ce jeudi 20 décembre. Il est 6h, très bon réveil. 5h, 7h, Mathieu Noël.
Tout ce qu'il faut retenir de l'actualité de ce jeudi 20 décembre, voici le journal de Céline Kallmann. Bonjour Céline.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
À la une ce matin.
La fronde des policiers a payé 120 à 150 euros net d'augmentation par mois. Les fonctionnaires réclament également la prime préconisée dans les entreprises privées par le gouvernement. Une femme de 55 ans est morte 12 heures après son entrée aux urgences de l'hôpital Lariboisière à Paris. Une enquête est ouverte. Premier conseil municipal à Marseille aujourd'hui depuis l'effondrement de plusieurs immeubles de la rue d'Aubagne. L'hôtel de ville va être ultra protégé. Plusieurs manifestations sont prévues ce matin.
Europe 1.
Les policiers ont obtenu gain de cause. Un accord a été trouvé avec le gouvernement. Une augmentation de 120 à 150 euros net par mois. Fronde désamorcée donc chez les forces de l'ordre. Mais une autre grogne pointe le bout de son nez, celle des fonctionnaires qui réclament aussi une prime préconisée par l'État dans les entreprises privées. 5 syndicats de la fonction publique vont être reçus demain à Bercy. Bernadette Groison est secrétaire générale de la FSU.
Ce que nous demandons au gouvernement, c'est d'appliquer à la fonction publique les annonces et les mesures décidées pour les salariés du privé. Nous avions été très inquiets le 10 décembre lorsqu'Emmanuel Macron, au moment de ses annonces, n'a absolument pas évoqué la fonction publique ni les plus de 5 millions d'agents. Nous avons 40% des agents qui sont en catégorie C, c'est-à-dire à un niveau très proche du SMIC. Nous sommes concernés par les bas salaires et donc nous demandons au gouvernement de prendre les mesures pour ce fameux coup de pouce donné aux bas salaires.
Bernadette Groison, jointe par Jean-Gabriel Bourgeois pour Europe 1. Les députés ont à peine retouché hier soir en commission le projet de loi sur les mesures d'urgence économique et sociale en réponse à la crise des gilets jaunes. Projet de loi qui va être examiné cet après-midi dans l'hémicycle avec entre autres les heures supplémentaires défiscalisées ou encore la possibilité pour les entreprises de verser une prime exceptionnelle. Carlos Ghosn pourrait être libéré prochainement. Un tribunal japonais a rejeté une nouvelle demande d'extension de garde à vue du PDG de Renault. Selon les médias, donc, il pourrait être libéré prochainement sous caution.
Le parquet de Paris a ouvert une enquête après le décès d'une femme aux urgences.
Elle a été retrouvée morte mardi matin, presque 12 heures après son admission à l'hôpital Lariboisière. L'enquête va devoir déterminer si elle a été vue ou non par un médecin. Ce qui est certain, c'est que les services des urgences de cet établissement sont fréquemment saturés. Écoutez François Braun, président du SAMU Urgences de France.
Il est clair qu'il y a des personnes qui décèdent dans les salles d'attente des services d'urgence, souvent par des pathologies qu'on ne peut de toute façon pas traiter et qui peuvent être des pathologies dépassées, mais aussi à cause de la sursaturation de ces services. Saturation qui est liée à l'amont, c'est-à-dire au fait de trop de gens viennent vers les services d'urgence. On sait globalement que 4 patients sur 10 pourraient être pris en charge ailleurs, principalement par la médecine de ville, mais saturation aussi liée à la saturation elle-même de l'hôpital. L'hôpital Lariboisière, c'est un service d'urgence, Lariboisière a 300 passages par jour, c'est énorme. Donc on imagine bien que dans ces conditions, il y a des patients dans les couloirs, il y a des patients dans tous les coins et qu'on ne peut pas tous les surveiller ni tous s'en occuper en même temps.
François Braun avec Ève Roger. Le capitaine de l'Olympique lyonnais Nabil Fekir est entendu dans le cadre d'une affaire d'escroquerie. Il a été auditionné librement par des enquêteurs grenoblois. L'enquête porterait sur des vols de courriers et de données bancaires. Un terrible accident de voiture sur une départementale hier soir au sud de Vierzon dans le Cher. Une collision entre deux voitures non loin de Lunerie. Les victimes sont trois femmes âgées de 50 à 77 ans.
Jean-Claude Gaudin sous pression. Le maire de Marseille va diriger ce matin son premier conseil municipal depuis le drame de la rue d'Aubagne.
Il y a un mois et demi, l'effondrement de deux immeubles coûtait la vie à 8 personnes. Jean-Claude Gaudin va donc s'exprimer pour la première fois devant le conseil qui avait été reporté compte tenu de la tension. Le maire qui a fini par rencontrer les responsables du collectif citoyen qui réclame une véritable politique contre le logement insalubre. Le ton est donc en train de changer. Nathalie Chevance.
Mea culpa, voilà en substance la nouvelle ligne choisie par Jean-Claude Gaudin. Lui qui, il y a quelques semaines encore, rester droit dans ses bottes. Seulement la colère de la rue n'est pas retombée et le maire de Marseille offre désormais un visage meurtri. S'il y a un responsable, c'est moi. Voilà même ce qu'il a dit devant Kaouter Ben Mohamed, porte-parole du collectif du 5 novembre.
Très surprise, c'est la première fois qu'on voit Jean-Claude Gaudin sur l'émotion. Il nous a dit qu'il était complètement effondré, alors, vaut mieux tard que jamais. Il a quand même avoué qu'il n'avait peut-être pas fait tout ce qu'il fallait et qu'il avait pris conscience, qu'il était prêt aujourd'hui à travailler avec les associations et les collectifs, qui est aussi étonnant, qu'il y avait beaucoup de retard, notamment sur le logement social et la prise en charge du logement indigne à Marseille. Je veux croire qu'il s'est rendu compte à la fin de sa carrière que de terminer comme ça, c'était quand même une hécatombe pour lui et pour toutes ces personnes qui sont décédées et pour les Marseillais.
Mais votre combat continue.
Notre combat continue pour que tout le monde à Marseille soit dans un logement digne, parce que nous payons aussi à Marseille le fait qu'il y ait 40 ans de clientélisme, qu'aujourd'hui nous sommes mobilisés pour identifier les responsables de cette catastrophe et qu'ils soient traduits en justice.
Et c'est le sens du rassemblement qui va se dérouler encore une fois sous les fenêtres du maire, qui s'est engagé à prendre en charge le relogement provisoire de plus d'un millier de personnes évacuées qui passeront les fêtes de fin d'année à l'hôtel. Marseille, Nathalie Chevance, Europe 1.
La SNCF prévoit de supprimer plus de 2000 emplois en 2019. Projet de budget présenté hier par la direction au syndicat. Projet qui a été rejeté à l'unanimité par les organisations syndicales dont l'avis est consultatif. Et puis appel à la grève chez Transavia les 24 et 25 décembre. La CGT de la compagnie a appelé les hôtesses et stewards à la mobilisation. Les syndicats exigent le retrait immédiat de la procédure de licenciement à l'encontre d'un de ses délégués qu'ils jugent victime d'un acharnement.
Europe 1, il est 6h05.
Dans l'actualité également ce matin, Donald Trump veut retirer ses soldats de Syrie.
2000 militaires stationnés dans le pays. Le président américain estime avoir atteint son objectif de vaincre l'État islamique. Il est loin le temps où plastique rimait avec fantastique. Au plus tard, en 2021, les cotons-tiges, paille ou encore touillettes à café seront interdits en Europe. Chaque année, 25 millions de tonnes de déchets en plastique sont produits dans l'Union européenne et un quart seulement est recyclé. Question, est-on vraiment prêt à s'en passer? Ça risque d'être compliqué, comme l'a constaté Jean-Jacques Herry dans un bar parisien.
Il ne m'a pas fallu longtemps pour me rendre compte que dans un bar, le plastique, c'est automatique.
Qu'est-ce qui vous fait plaisir, monsieur?
Un coca avec des glaçons. Et lorsque mon verre arrive, j'ai bien mes glaçons, mais aussi une paille en plastique.
Une paille noire en plastique, coudée, classique.
Mounia El-Khotni est cofondatrice de l'association Balai Paille, qui milite contre le plastique à usage unique. Selon elle, la future interdiction est une bonne nouvelle, mais il faudra aussi et surtout changer les mentalités en parallèle.
Aujourd'hui, on est dans un paradigme où quand on commande, la paille arrive. Les alternatives existent, par exemple l'inox que les gens lavent au lave-vaisselle réutilisent.
Des pailles en inox ?
Des pailles en inox, j'en ai sur moi.
Une alternative vendue 4 euros qui ne convainc pas Stéphane, le serveur.
Si on passe à l'inox, pourquoi pas ? Mais il faut que le consommateur soit prêt à payer plus cher également ses consommations.
Ça veut dire une augmentation de combien pour le coca, par exemple?
Ça peut aller jusqu'à 1 euro ou 2 euros en plus.
Pour l'employé, les cafés préféreront continuer à privilégier le jetable lorsque le plastique sera interdit. Il prédit donc un gros succès à la paille en carton.
Un reportage signé Jean-Jacques Herry.
Merci, c'était le journal de Céline Kallmann. Céline, journaliste éminemment compétente, qui a, cela dit, un petit défaut, un léger penchant pour l'affabulation. C'est notre Serge le mytho à nous, hein Céline?
Ouais, j'ai fait le Vietnam, ouais.
Céline, vraiment?
Pas vraiment.
Non, vraiment.
Europe 1. Il est 6h07, Mathieu Noël.
À suivre, c'est historique, le fact-checking par l'histoire. Et aujourd'hui, alors que Toulouse inaugure un espace dédié au début de l'aéronautique, Fabrice remonte le temps à bord de sa DeLorean pour nous permettre de comprendre pourquoi Toulouse est un des berceaux de l'aviation.
Mathieu Noël sur Europe 1.
Il est 6h08, Mathieu Noël.
Oh yeah. L'heure d'un point sur la météo avec vous, Céline Dacosta.
Oui, avec encore beaucoup de nuages aujourd'hui, de la pluie également du nord de l'Aquitaine à la Lorraine pour ce matin. Un peu de neige encore sur les reliefs de l'Est et le Massif central, ciel bien couvert pour les autres, à part de la Bretagne à la Normandie où on aura encore quelques éclaircies entre deux averses près des côtes. Là aussi, on aura du vent, soleil voilé est présent, également des Pyrénées à la région Rhône-Alpes toute la journée. C'est d'ailleurs là que le soleil brillera largement cet après-midi près de la Méditerranée. Partout ailleurs, ce sera assez couvert avec du vent près des côtes, des averses ponctuelles et encore quelques éclaircies qu'on retrouvera uniquement de la Bretagne à l'Île-de-France et en région centre.
Merci Céline. Eva Rock.
Depuis ce matin, on fête l'anniversaire Kylian Mbappé qui a 20 ans. Mais vous, vous rêviez de quoi à 20 ans? Est-ce que vous avez réalisé tous vos rêves? Eh bien, sur Twitter, avec le hashtag Europe 1, Hervé nous dit par exemple, je rêvais d'une vie au vert, trek au Népal, faire le tour du monde en voilier. Je vis depuis 10 ans dans une ville tentaculaire, Shanghai, je sais pas ce qui a merdé en chemin. Catherine, elle nous dit, je voulais devenir interprète aux Nations Unies. Bon, après, la réalité des facs françaises m'a rattrapée, mais ma passion pour les langues étrangères reste intacte. Et puis, il y a Jérémy qui nous dit, à 20 ans, je me dirigeais vers un métier dans le secteur de l'industrie. Je n'ai jamais évolué dans ce milieu. En revanche, à 20 ans, je riais déjà des résultats de l'OM. C'était un petit message pour vous.
Qu'est-ce que c'est que cet auditeur?
Il nous a envoyé une très jolie photo de ses enfants avec le maillot floqué au nom de Mbappé.
Enfin bon, bref, merci quand même. Merci, chers auditeurs.
Europe 1, 5h, 7h, Mathieu Noël.
Mesdames et messieurs, en accueillant notre expert sportif Jérôme Lacroix, j'ai conscience que l'expression consacrée « le moment tant attendu est arrivé » a été maintes fois galvaudée, surtout dans cette matinale. Mais là, en présence d'un tel bijou musical, qui plus est si rare, on peut, je crois, légitimement souligner le caractère historique de ce moment. Sony Music exhume de temps à autre des inédits de Michael Jackson. Le dernier en date, ce duo sur Billie Jean entre le King of Pop et Jérôme Lacroix.
Billie Jean, that's my lover, she's just a girl.
Sous vos applaudissements, voici le journal des sports, présenté intégralement en moonwalk par le King d'ici les moules. Allez, GG, on vous en parle depuis ce matin, le destin glorieux d'un gamin en or.
Ah oui, on vient de le dire, Kylian Mbappé fête ses 20 ans aujourd'hui, champion du monde, prodige du foot, prodige de précocité, adoubé par Pelé, bref. Sur Europe 1, nous, on a voulu à cette occasion vous faire découvrir un Mbappé moins connu. Savez-vous qu'à 8 ans, il détenait déjà cette locution quasi parfaite et ce vocabulaire, cette élocution, pardon, quasi parfaite et ce vocabulaire soutenu. Le directeur de son école primaire le décrit comme un surdoué sur ce plan aussi. Savez-vous que sa mère, soucieuse de l'ouvrir à autre chose qu'au foot, l'a inscrit à des cours de flûte? Rendez-vous tout à l'heure, juste après 7h15, pour un Europe 1 va plus loin spécial du service des sports d'Europe 1. Il sera porté ce matin par Simon Rubin. On lui souhaite aussi à Mbappé un bon anniversaire du côté de Bondy, sa ville près de Paris, celle de son premier club. Mamadou, éducateur au club de foot, se sert aujourd'hui du parcours d'Mbappé pour apprendre aux jeunes pousses.
Ça tombe bien, nous on peut entre guillemets se servir de leurs rêves pour les inciter à travailler, à être sérieux.
Et les jeunes licenciés qui chantent pour Mbappé. Et vous entendrez tout à l'heure dans le journal de 6h30 le reportage complet à Bondy de Cyril de la Morinerie.
À Marseille, le stade Vélodrome était bien peu garni hier soir.
C'était à peine un peu plus de 8000 spectateurs, mais ils ont grondé tout de même à la vue de la nouvelle défaite des footballeurs de l'OM, éliminés dès les huitièmes de finale de la Coupe de la Ligue par les Strasbourgeois. 4 tirs au but à 2. Adil Rami a manqué son tir au but, tout comme Dimitri Payet, pour une 4e défaite en 5 matchs. Alors, Dimitri Payet, crise ou pas crise?
Je ne sais pas si on peut choisir, on peut définir ça comme une crise, mais on sait que on n'est pas dans une période positive, voilà, on a des défaites qui se répètent et je ne sais pas si on peut dire qu'ils se ressemblent, mais en tout cas on est des compétiteurs, on n'aime pas ça et croyez-moi qu'on fait ce qu'il faut pour essayer d'enverser cette tendance.
Des propos recueillis par Yann Théroux et on connaît ce matin les affiches des quarts de finale de cette Coupe de la Ligue. Lyon, Strasbourg, Monaco, Rennes, Bordeaux, Le Havre et PSG, Guingamp. Match les 8 et 9 janvier. Un mot de handball, 13e journée de D1, succès des Montpellier 33-27 face à Nîmes hier soir dans un derby. Et la victoire de Chambéry 31-22 face à Cesson-Rennes. Ce soir 20h45, Nantes-PSG le deuxième contre le premier.
On termine, Jérôme, avec Black or White. Non, l'histoire du jour, pardon.
Les joueurs de rugby ne doivent plus risquer leur vie sur le terrain. C'est le mot d'ordre de la réunion qui va se tenir aujourd'hui à Paris à la demande des instances françaises autour de la table. Les présidents de la Fédération et de la Ligue française, ainsi que des membres de la Fédération internationale. Principal problème, les plaquages trop dangereux, car souvent effectués trop haut au niveau du visage ou du cou. C'est le temps de l'action. Après l'émotion, 3 très jeunes rugbymen sont récemment décédés en raison d'actions violente de jeu, dont Nicolas Chauvin, 18 ans, dont les émouvantes obsèques ont été célébrées hier à Paris en présence de 400 personnes.
C'était le journal des sports de Jérôme Lacroix, le petit prince de la pop. Un dernier mot, GG.
She's just a girl.
Merci Jérôme. Et du sport spectacle, on passe aux leçons de l'histoire avec celui qui porte sur le monde et les gens un regard impitoyable mais juste. Par exemple sur vous, Jérôme.
Une belle carrure, bien qu'un peu rondouillard.
Fabrice Dalméja est là.
J'ai pris.
Et ce matin, il nous explique comment Toulouse est devenue un des grands berceaux de l'aviation moderne.
Europe 1.
Je vous ai compris.
Ich bin ein Berliner.
Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille.
C'est historique.
Bonjour Fabrice Almeida.
Bonjour à tous.
La ville de Toulouse inaugure aujourd'hui un nouvel espace culturel baptisé l'Envol des Pionniers, un lieu consacré donc à l'histoire de l'aviation. Un siècle d'exploits y sont présentés. Mais pourquoi Toulouse est-elle devenue cette capitale française de l'aéronautique ?
Eh bien à cause d'un ingénieur visionnaire, Georges Latécoère. Sa famille avait fait fortune avec une série à Bagnères de Bigorre. Et puis il est monté à Paris, étudié au lycée Louis-le-Grand, puis à l'école centrale. Et à sa sortie, en 1906, alors que son père est mort l'année précédente et que sa mère a repris l'affaire, il revient à Bagnères pour développer l'entreprise familiale. Il ajoute une production mécanique. Des pièces de tramway, puis des wagons de train sortent de ses ateliers quand soudain, la guerre de 14 éclate. Après un court passage sous les armes, Georges Latécoère est rendu à la vie civile. Son patriotisme le pousse maintenant à construire deux usines d'armement à Toulouse.
Et donc pourquoi Toulouse ?
Ben, car c'était la grande ville la plus éloignée du front et proche, en cas de besoin, des importations de matières premières via l'Espagne. C'est ainsi qu'il fabrique des obus, puis à la demande du ministère de la Guerre, il accepte de fabriquer des pièces pour les avions Salmson, une autre marque, qui était à l'étroit dans ses usines parisiennes. C'est le premier pas de Toulouse dans l'aéronautique, avec l'usine dont Montondran, construite à partir de rien et qui devient cruciale dès 1917 pour l'effort de guerre. Après l'armistice, Latécoère a l'intuition que le transport aérien va prendre de l'ampleur. L'aéropostale sera son bébé dès décembre 1918.
Ça sera le berceau des héros de l'aviation civile.
Oui, avec des noms entrés dans l'histoire. Mermoz, Guillaumat, Saint-Exupéry sont passés par les entreprises Latécoère. Ces pionniers ont tracé les lignes aériennes et ancré Toulouse dans l'histoire mythique de l'aéronautique. Une histoire que retrace donc le musée qui ouvre ses portes aujourd'hui et qui nous replonge aux origines des succès de nos grands fleurons industriels, Latécoère ou Airbus, qui font le Toulouse actuel.
Merci beaucoup Fabrice Dalmeda, l'histoire à la rescousse de l'actualité. On vous retrouve demain, juste avant 6h15.
Europe 1, il est 6h16, Mathieu Noël.
Vous écoutez Debout les copains, 2 heures de bonne humeur, d'actu et d'invités pour la décrypter. Ce matin, à l'occasion de l'ouverture d'un site d'information sur la plateforme Parcoursup, nous jouons un peu, avouons-le aux auditeurs, au jeu des 7 familles. Puisque dans la famille Tarlé, je demande non pas Axel, notre chroniqueur éco, mais sa sœur, Sophie de Tarlé, rédactrice en chef du Figaro étudiant. Elle nous dira à quoi doivent s'attendre les bacheliers à un mois de l'ouverture des inscriptions.
Il est 6h18, l'essentiel de l'actualité, Mathieu Noël.
Carlos Ghosn pourrait être libéré prochainement sous caution. Un tribunal japonais a rejeté une nouvelle demande d'extension de la garde à vue du PDG de Renault. Carlos Ghosn a été inculpé le 10 décembre pour avoir omis de déclarer aux autorités boursières environ 38 millions d'euros de revenus. Une augmentation de 120 à 150 euros net par mois. Les syndicats de police ont conclu un accord de revalorisation salariale avec le ministère de l'Intérieur. Une avancée assez conséquente pour le secrétaire général du syndicat Unité SGP Police. Enfin, du football, Marseille en crise, éliminé en 8e de finale de la Coupe de la Ligue par Strasbourg qui a décroché son ticket pour les quarts au tir au but. Les deux équipes n'avaient pas pu se départager à la fin du temps réglementaire, un partout.
Europe 1,
5h, 7h, Mathieu Noël.
Voici pour les titres de ce 20 décembre et aujourd'hui la plateforme Parcoursup lance un site d'information dédié aux bacheliers un mois pile avant l'ouverture des inscriptions. À quoi doit-on s'attendre ? Bonjour Sophie de Tarlé.
Bonjour Mathieu.
Vous êtes rédactrice en chef du Figaro étudiant, vous êtes donc bien placée, bien renseignée pour nous dire si cette année ça va coincer ou ça va passer. Déjà techniquement, est-ce que tout est prêt ? On sait ça ?
Bah oui, normalement le site ouvre aujourd'hui, donc vous avez accès à cette année à 14 000 formations qui sont sur le site internet Parcoursup, donc vous avez un mois en gros pour vous renseigner sur toutes les formations qui sont disponibles sur le site ministériel.
Le système avait quand même été très critiqué l'année dernière. À raison, selon vous, il avait vraiment des failles. Est-ce que ces failles ont été résolues cette année ?
Oui, la grosse faille, c'est la date en fait de la fin de Parcoursup, puisqu'elle était fixée au 5 septembre. Ce qui veut dire qu'il y a beaucoup d'élèves qui avaient une réponse en fait, puisque 94% des candidats ont eu une réponse positive. Et en moyenne, ils ont eu 8 jours pour... ils ont eu une réponse en 8 jours. Donc c'est assez positif. Le problème, c'est comme ils avaient jusqu'au 5 septembre pour valider leurs vœux, ils ont attendu tout l'été en espérant une meilleure formation.
Ah, d'accord.
En se disant, bah, j'ai eu ça, mais peut-être que j'aurai quelque chose de mieux. Et ça a bloqué tout le système.
Et donc là, on a décidé d'avancer la clôture de la phase principale en juillet.
Tout à fait, le 19 juillet. Donc normalement, ça devrait un peu mieux se passer. Et puis il y a un deuxième changement majeur, c'est que les élèves auront le rang du dernier admis sur la liste d'attente. parce que l'année dernière, en fait, ils savaient qu'ils étaient en liste d'attente, ils étaient 200e, mais ils se disaient, bah, peut-être que je vais remonter hein, sur la liste d'attente,
ah oui.
J'ai un petit espoir. Tandis que là, on leur dira, bah, le dernier appelé était le 15e, donc si vous êtes 200e,
vous
bah,
avez
gentil, vous n'avez aucune chance.
En gros, c'était un peu opaque, et là, on va y voir plus clair.
Et puis oui, on aura aussi les critères d'admission, c'est-à-dire on aura un peu plus d'éclaircissement justement sur les critères de sélection des candidats.
J'ai vu aussi qu'un répondeur automatique allait voir le jour, les candidats pourront indiquer leurs priorités sans avoir à se connecter tous les jours à la plateforme. J'ai pas trop bien compris à quoi ça servait.
Bah disons que c'est toujours dans un souci de transparence et d'information des candidats, parce que l'an dernier, il y avait énormément, enfin, beaucoup de questions sur est-ce que j'ai des chances d'être admis, est-ce que j'ai pas intérêt à attendre. Et finalement, tout l'été, il y avait des élèves qui étaient pas en carafe, parce qu'ils avaient une proposition, mais disons qu'ils prenaient leur temps, ils se disaient, bah, je vais attendre jusqu'au 5 septembre.
Le site ouvre donc aujourd'hui pour que les futurs bacheliers puissent s'informer, mais les inscriptions, proprement dit, ne démarrent qu'en janvier. Il y a 14 000 formations disponibles. Comment les parents peuvent aider leur enfant à choisir la bonne orientation dans cette jungle de propositions ?
Oui, le plus de choix, tu le choix. Ouais. Donc la première chose, c'est sur le site internet, vous aurez accès à toutes les formations et il y aura notamment les dates de journées portes ouvertes. Je vous encourage vivement à y aller, ces journées portes ouvertes.
Ça marche vraiment, les journées portes ouvertes, c'est intéressant.
Ah oui, c'est vraiment bien. C'est même très important, puisqu'ensuite, vous devrez faire des lettres de motivation pour candidater à ces formations. Et le fait d'avoir rencontré des professeurs sur place, le fait de s'être renseigné, d'avoir parlé à des étudiants, des professeurs, eh bien, c'est un plus pour la lettre de motivation et ce sera pris en compte dans les admissions. C'est très important, ces journées portes ouvertes. Et puis, il y a autre chose, il y a des salons qui ont lieu toute l'année, où il y aura des conférences sur les métiers, les formations. Et puis, je vous encourage aussi à parler avec votre entourage, tout simplement, avec vos professeurs principaux, qui pourront aussi vous aider à trouver, disons, la bonne formation à votre famille aussi. Et puis, il y a quand même des CIO, des centres d'information d'orientation, ils sont gratuits, ils sont dans toute la France, et ils permettent de faire des bilans d'orientation gratuitement. Il y a aussi des bilans faits par des sociétés privées. Là, il faut compter entre 200 et 300 euros
ça vaut le coup.
Pour faire. Bah, disons que ça peut. Moi, honnêtement, je l'ai fait pour ma fille et je l'ai testé moi-même pour des articles. Et je trouve que c'est pas mal quand même. Après, c'est pas valeur d'évangile.
Mais pour le coup, ça crée une discrimination entre ceux qui peuvent se les payer et ceux qui peuvent pas.
Oui, mais il y a des CIO qui proposent aussi des bilans gratuits. Donc, que ce soit dans des CIO ou dans des centres payants, ça peut être une bonne chose. Après, c'est pas non plus. C'est pas le truc indispensable. On peut s'en sortir tout à fait sans. Hein. Mais disons que si des parents, ça leur fait plaisir et ça peut les rassurer. Pourquoi pas.
Sophie Tallet, si un lycéen, et ça arrive quand même souvent, ne sait pas du tout ce qu'il veut faire plus tard, quels sont les principaux conseils qu'on peut donner aux parents ? Moi, à mon époque, on disait, si tu ne sais pas exactement ce que tu veux faire, fais les études le plus large possible. Moi, c'est pour ça que j'ai fait Sciences Po, c'est des études qui ne ferment aucune porte, quelque part. Mais aujourd'hui, j'ai l'impression que ce n'est plus trop un conseil valable. Est-ce qu'il faut spécialiser très vite ?
Non, pas du tout. Le conseil, ça peut être, d'abord, on n'a pas forcément le choix de faire Sciences Po, parce que faire Sciences Po,
non,
ça exige un certain niveau.
Ou des études générales,
mais,
en tout cas.
Oui, bien sûr. Disons qu'il y a, si vous avez vraiment pas quoi faire, disons qu'il y a les deux voies principales lorsqu'on sort d'un bac général, bien sûr, c'est l'université et les classes préparatoires. Il y a aussi les BTS, les DUT. Moi, je dirais que c'est pas forcément un bon choix de viser complètement large, puisqu'aujourd'hui, il y a énormément de passerelles entre les formations. Si on commence par un DUT, on pourra rentrer en école de commerce, alors que c'est quelque chose de très spécialisé. Si on fait un BTS, pareil. Si on fait une licence de droit, ce qui est quand même assez spécialisé pour le coup, on pourra rentrer ensuite à Sciences Po. Donc, les passerelles, je pense que par rapport à une vingtaine d'années, ça a énormément évolué. Aujourd'hui, on peut faire comme ça des sauts de puce entre formations.
Il ne faut pas avoir peur de faire un choix précis,
exact.
De se lancer.
Voilà, on se lance. Le problème, c'est le taux d'échec en première année. Le problème, c'est pas tant Parcoursup, c'est 30% d'élèves qui ensuite échouent en première année. Et ça, c'est un problème national.
Et toutes les inscriptions ne se font pas via Parcoursup, j'ai lu ça. Quelles sont les astuces à connaître ?
Mais il y a encore, malheureusement, encore cette année, des établissements qui ne postulent pas, qui ne rentrent pas sur Parcoursup. C'est Dauphine, Sciences Po en particulier, Sciences Po Paris et Sciences Po de province.
C'est pas via Parcoursup, ça ?
Non, elles ont un an, en fait, pour s'y mettre. Donc, elles seront obligées de s'y mettre cette année, l'année prochaine. Donc, les écoles de Beaux-Arts, les Arts Déco, les Beaux-Arts de Paris ne sont pas sur Parcoursup. Et bien sûr, ce qu'il y en a de plus en plus, toutes les écoles étrangères. Forcément, ne sont pas sur Parcoursup. Il y a énormément d'étudiants, l'ordre de 20 000, qui vont étudier en Belgique, en Suisse, en Grande-Bretagne. Et ça se développe aussi de plus en plus.
Un dernier mot, Sophie Tarlet, c'est quoi les formations les plus demandées, là où il risque d'y avoir des embouteillages ?
Alors, les formations, c'est les classes préparatoires et les BTS, où forcément, plus c'est exigeant, plus il y a de liste d'attente, mais aussi les DUT. Ensuite, il y a les licences, en particulier médecine, psychologie, droit, droit et STAPS pour la filière
STAPS
sport.
C'est le sport, ouais.
Et en fait, toutes les filières à la fac qui ne peuvent se faire qu'à l'université.
Donc là, attention, risque d'embouteillage.
Et un dernier, on n'y pense pas, mais les écoles d'art appliquées.
Ah oui.
C'est extrêmement difficile d'y rentrer, notamment Boulle, Olivier de Serres, Estienne.
Je vous
encourage de postuler dans ces cas-là, ou en banlieue, c'est un peu moins demandé, ou en province.
Merci beaucoup Sophie de Tarlet d'avoir été avec nous ce matin pour parler de Parcoursup. On rappelle que vous êtes rédactrice en chef du Figaro étudiant. Merci.
Europe 1, il est 6h26, Mathieu Noël.
Debout les copains, continue sur Europe 1 avant de retrouver le journal de 6h30 de Sébastien Krebs. La météo revient et la pluie ne sera pas réservée qu'à la pointe bretonne.
Il est 6h27, Mathieu Noël.
Avant de retrouver le journal de 6h30, voici la météo de Céline Dacosta. Une journée encore mitigée aujourd'hui,
oui,
nuageuse.
C'est vrai. Oui, avec un ciel bien couvert sur les trois quarts du pays. Des averses encore présentes ce matin entre la Gironde, le Massif central, la Lorraine. De la neige sur les reliefs de l'Est et le Massif central. Puis c'est un petit peu plus lumineux sur un gros quart nord-ouest avec du vent près des côtes. Un peu de soleil aussi sur les Pyrénées, la région Rhône-Alpes, même s'il sera souvent voilé. Idem pour la Corse. Les températures, 3 degrés à Millau en ce moment, 4 à Tarbes, à Mulhouse, 6 degrés à Lille, 7 à Nantes, 8 à Bordeaux et Paris, jusqu'à 10 degrés à Ajaccio.
Cet après-midi, toujours beaucoup de nuages.
Oui, on aura encore un soleil bien voilé sur les Pyrénées. Il sera plus généreux près de la Méditerranée, la région Rhône-Alpes et la Corse, avec du vent sur les caps. Partout ailleurs, ce sera encore bien nuageux, avec de bonnes rafales de vent et des averses. On aura quand même quelques éclaircies entre les Pays de la Loire, la région centre et l'Île-de-France. Quant aux températures, la moyenne sera de 9 à 12 degrés sur la moitié nord, avec un petit peu plus de fraîcheur dans le nord-est et centre-est, hein, puisque là, la moyenne sera de 5 à 9 degrés. Pour la moitié sud, ça sera très doux, hein, 10 à 15 degrés.
Merci Céline, restez avec nous dans une minute, le journal de 6h30.
Europe 1,
5h, 7h,
Mathieu Noël.
Vous écoutez Debout les copains, 2h au sommet, journalistiquement, humoristiquement, mais surtout musicalement, puisqu'après la reprise de Vive le vent par Mika hier, on a trouvé mieux dans nos archives. Vive le vent par Clo-Clo.
Vive le vent, vive le vent.
C'est une fausse chanson après la fausse pub.
Non, c'est une vraie, va. C'est ça qui est fou. À suivre. Politique, économie, médias, les trois fantastiques s'apprêtent une fois de plus à éclairer vos lanternes. Au programme notamment, un duel qu'on n'avait pas vu venir. Xavier Bertrand, Emmanuel Macron. Michaël Darmon, notre spécialiste politique, n'a pas hésité à surnommer ça la bataille des ch'tis. Emmanuel Macron, qui décidément en ce moment, doit beaucoup regarder Rocky IV.
L'important, c'est de se faire cogner et d'aller quand même de l'avant. C'est de pouvoir encaisser sans jamais, jamais flancher. C'est comme ça qu'on gagne.
Allez, président.
Vous écoutez Europe 1, il est 6h30. Mathieu Noël.
Voici le journal de 6h30 avec vous Sébastien Krebs. Bonjour Sébastien.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
À la une aujourd'hui.
Les gilets jaunes progressivement évacués des ronds-points au moment où l'Assemblée nationale vote les mesures d'urgence, mais ils ne comptent pas lâcher l'affaire. Nous allons en Bretagne dans un instant. 8 ans après le scandale PIP, de nouveaux soupçons sur les prothèses mammaires et l'inquiétude des femmes qui portent les implants allergants désormais retirés de la vente. Et puis le surdoué du foot français fête ses 20 ans. On souhaitera un bon anniversaire à Kylian Mbappé à la fin de ce journal avec les enfants de sa ville, Bondy, en Seine-Saint-Denis.
Europe 1.
Et nous partons donc d'abord sur un rond-point occupé depuis un mois maintenant par les gilets jaunes de Lannes-Sévelin près de Lorient, dans le Morbihan, au moment où les députés s'apprêtent à voter aujourd'hui la loi qui doit rendre concrètes les mesures promises par le président. Prime d'activité, heures supplémentaires, les évacuations se multiplient un peu partout. Là-bas, les policiers sont arrivés hier après-midi face à des gilets jaunes bien décidés à ne pas lâcher le morceau. François Coulon.
Ils sont comme une famille qui défend sa maison, deux cabanes et un Algeco, leur base. Depuis le 17 novembre, la cinquantaine de gilets jaunes attend de pied ferme les forces de l'ordre. 12h30, bulldozers et gendarmes mobiles investissent le rond-point.
Je vais demander de vous disperser dans le calme.
On va tous se tenir les mains, on va tous faire le tour de la cabane.
Deuxième sommation, on va faire usage de la force.
Citoyens.
Quand je suis en retraite, on me pique ma retraite.
Ça nous prend aux tripes, mais on va reconstruire, on va rien lâcher. Avec leur beau discours, le mouvement s'étouffe. Bah, qu'ils viennent nous voir, nous. On s'étouffe pas du tout, on baissera pas les bras.
Au lieu de nous faire peur, ça nous énerve et il va y avoir des actions plus dures. Il y a certaines personnes qui en ont marre d'être un petit peu trop pacifiques. Les gens ont envie de s'attaquer à des banques qui parlent beaucoup de préfectures. Des actions plus musclées.
On lâche rien.
Oui, nous, 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 re-
reverrons bientôt, ce n'est qu'à nous revoir.
À 20h, nouveau cadre, Assemblée citoyenne à la Maison des associations. Lorient, François Coulon, Europe 1.
Et après des dégradations sur les péages, 8 personnes comparaissent aujourd'hui devant le tribunal correctionnel de Marseille, poursuivies pour un saccage à La Ciotat. Hier soir, les policiers ont obtenu gain de cause après une journée morte dans les commissariats. 120 à 130 euros d'augmentation, accord conclu après une longue soirée de négociations au ministère de l'Intérieur. Et parmi les revendications des Gilets jaunes, il y a toujours, depuis le début, le rétablissement de l'ISF, sur lequel le gouvernement n'a jamais cédé, tout en promettant d'étudier l'impact de sa suppression. Un comité d'évaluation va se charger de cette mission. Il est installé aujourd'hui. Anne-Laure Jumet.
Ne pas revenir sur l'ISF, mais contrer les arguments de ceux qui, sur les ronds-points, dénoncent les cadeaux faits aux riches. Voilà l'objectif de la majorité. L'évaluation de la réforme était prévue par la loi, mais pour répondre à la crise des Gilets jaunes, les députés accélèrent le calendrier. Un rapport sera rendu en septembre par cette commission composée de parlementaires, d'économistes et d'organismes comme l'INSEE. Et un premier point sera fait dès le mois de février, histoire de produire rapidement des résultats. Alors en coulisses, certains députés reconnaissent tout de même un problème de méthode. Pour faire accepter cette réforme, on aurait dû beaucoup plus communiquer sur le mal fait par l'ISF. Le nombre d'entreprises et de ménages partis à l'étranger à cause de cet impôt, estime une députée de la Commission des Finances. Et même si le rapport démontrait l'intérêt de la suppression de l'ISF, La République En Marche réfléchit déjà à introduire plus de justice fiscale. Parmi les pistes, taxer plus les grosses successions ou encore augmenter le taux de la dernière tranche de l'impôt sur le revenu.
Anne-Laure Jumet du service économie d'Europe 1. Carlos Ghosn va-t-il pouvoir sortir de prison? En détention au Japon depuis un mois maintenant, le patron de Renault pourrait être libéré prochainement sous caution, estime des médias japonais. Un tribunal a rejeté une nouvelle extension de sa garde à vue. Et puis il est temps que nos troupes rentrent à la maison. Donald Trump confirme dans une vidéo postée cette nuit sur Twitter le retrait total des 2000 militaires américains de Syrie. Il estime qu'ils ont gagné contre le groupe État islamique. Cette annonce a fait bondir jusque dans les rangs des républicains. En Italie, le gouvernement finit par rentrer dans les clous de Bruxelles. Épinglé à cause d'un budget beaucoup trop déficitaire, il accepte de reporter certaines des mesures coûteuses pour échapper à de potentielles sanctions. À Rome, pour Europe 1, Blandine Hugonnet.
Un accord trouvé entre Rome et Bruxelles sur le budget 2019 de l'Italie. La décision fait la une des journaux italiens ce matin et pourtant les Italiens ne crient pas encore victoire, comme Renato et le jeune Giovanni, sceptiques sur les conséquences de ce budget.
C'est une victoire du gouvernement, mais une victoire à quel prix? Parce qu'au final, leur budget prévoit une croissance à moins de 1% alors qu'ils disaient 1,5%. Après, je suis content qu'il n'y ait pas de sanctions parce qu'on est déjà au plus mal.
Les dépenses du gouvernement sont toujours trop élevées et avec ce budget, il n'y a pas d'avenir pour l'Italie.
Pour Valerio et Luisa, Bruxelles qui annule la procédure de sanctions contre l'Italie, c'est la victoire d'un gouvernement qui sait les défendre.
Ce gouvernement, il est en train de changer les choses. Ils ont le courage de dire non, de tenir tête à l'Europe pour que nous, on aille mieux.
Sinon, en Europe, on n'est pas considéré comme le sont la France ou l'Allemagne.
Reste à voir si la Commission européenne ira au bout de ses promesses. Bruxelles a pris rendez-vous en janvier avec Rome pour vérifier si le texte final voté par les Italiens respectera bien l'accord trouvé ce mercredi. Rome, Blandine Hugonnet, Europe 1.
L'avenir du créateur de Facebook, Mark Zuckerberg, est-il menacé à la tête de son empire? L'action du réseau social a de nouveau décroché à Wall Street après que le procureur de Washington a annoncé déclencher des poursuites. Facebook est accusé d'avoir mal protégé les données personnelles de ses utilisateurs et d'avoir ouvert les vannes à 150 entreprises pour se servir dans les adresses e-mail et les publications des internautes. L'inquiétude à présent en France des femmes qui ont reçu des implants mammaires. Plusieurs années après le scandale PIP, l'un des leaders du marché est à nouveau pointé du doigt. Allergan vient de perdre sa certification CE et doit retirer tous ses produits de la vente. On parle de risque de lymphome. Mélanie Gomez a rencontré des femmes qui portent déjà ces prothèses.
Sophie a 46 ans, elle s'est fait opérer après un cancer du sein. Alors le risque de lymphome causé par les implants, elle en a entendu parler, mais son chirurgien a su la rassurer.
Le risque, il est de 0,01%. J'ai plus de risque d'avoir un accident de voiture que d'avoir un problème lié à mes prothèses.
Mais pour certaines femmes comme Audrey, c'est insupportable de vivre avec ce risque. Cette maman de 38 ans a déjà survécu au cancer et aujourd'hui, elle est très en colère.
Les prothèses Allergan sont interdites en Australie depuis 4 ans. Moi, ma chirurgienne m'a dit que non, il n'y avait pas lieu de s'inquiéter, etc. Toujours est-il que je suis inquiétée en colère. J'ai l'impression qu'on m'a enlevé une saloperie. pour m'en mettre une encore pire.
Audrey, pour l'instant, n'est pas prête à se faire opérer une nouvelle fois, mais d'autres comme Alexia, 31 ans, n'ont pas le choix. Pour elle, c'est une urgence. Demain, elle sera au bloc, car l'une de ses prothèses s'est rompue.
Il y a 5 ans, quand on me les a posées, en fait, on m'a dit que c'était des prothèses nouvelle génération. Elles étaient bien sûr plus sûres, étant donné qu'on était passé par le scandale PIP. Mais finalité, au bout de 5 ans, voilà, il y a une rupture de prothèse, il y a des risques de lymphome. Ça m'a gâché la vie.
Alors aujourd'hui, le mot d'ordre des autorités sanitaires, c'est surtout pas de panique, pas question de retirer tous les implants allergants. En revanche, une surveillance annuelle est indispensable.
Mélanie Gomez, spécialiste santé d'Europe 1. Le football et Marseille qui sombre dans la crise. L'OM a perdu hier soir, éliminé en 8e de finale de la Coupe de la Ligue au tir au but face à Strasbourg dans un vélodrome quasiment vide. On connaît donc désormais les affiches des quarts de finale. Ce sera Monaco, Rennes, Bordeaux, Le Havre, Lyon, Strasbourg et PSG Guingamp. Rendez-vous les 8 et 9 janvier. Et puis on termine avec un anniversaire, tout juste 20 ans aujourd'hui et déjà sur le toit du monde. Kylian Mbappé soufflera ses bougies en famille aujourd'hui discrètement. Retour à Bondy, la ville où il a grandi en Seine-Saint-Denis et où son parcours de surdoué alimente tous les rêves des plus jeunes. Reportage de Cyril de la Morinerie.
Ces jours de foot et les dizaines d'enfants qui s'entraînent ici à Bondy veulent tous suivre les traces de la star de l'équipe de France.
J'ai envie de devenir comme Kylian Mbappé. Mais il joue bien, mais Bondy.
Car c'est ici, dans le stade Léo Lagrange, en plein cœur de Bondy, que Kylian Mbappé a disputé tout jeune ses premiers matchs. Mamadou, qui est éducateur à l'AS Bondy, se sert de l'exemple de Kylian Mbappé pour encadrer les enfants du club.
Ça tombe bien, nous on peut entre guillemets se servir de leurs rêves pour les inciter à travailler, à être sérieux, et c'est bien.
L'aura de Kylian Mbappé dépasse les terrains de foot. En ville aussi, on parle du phénomène, comme dans cette boucherie où la maman de Kylian avait l'habitude de faire ses courses, notamment pour acheter des plats de lasagne.
Ouais. Sa maman nous prenait des plats de 3 kilos. Ah oui, ça casse la croûte, hein. Les sportifs, ça mange bien. On lui souhaite un ballon d'or dans quelques années. Hein.
Mais avant qui sait un ballon d'or, il y a un anniversaire à célébrer. 20 ans, ça se fête.
Et pour son anniversaire, Mathieu, vous savez ce qu'il a demandé, Kylian Mbappé ?
Non.
Gagner la Ligue des Champions avec le PSG.
Oh, on lui souhaite, évidemment. On reviendra sur le parcours de ce génie du foot tout à l'heure dans Europe 1 va plus loin à 7h15. Rendez-vous avec Nico Saliagas.
Merci, c'était le journal de Sébastien Krepp. Sébastien qui, ma foi, s'est bien glissé dans les baskets, ou plutôt devrais-je dire les mocassins Tod's en peau de croco tendu de David Doucan. David qui, mercredi, durant la coupure pub, nous révélait un de ses petits secrets. Chaque matin, avant de partir au boulot...
Dior homme, en toute simplicité.
Prenez-en de la graine, Krebs. C'est comme ça qu'on devient un vrai journaliste. Céline Dacosta, je sais qu'il vous manque, son parfum, son
c'est
talent,
vrai,
mais accepteriez-vous tout de même de présenter la météo ?
Mais oui, avec plaisir, avec encore des averses. Hein. Ce matin, on les retrouve entre le nord de l'Aquitaine et le nord-est. Il y a également des pluies près des côtes, avec du vent près des côtes de la Manche. Un peu de neige sur le massif central et les reliefs de l'Est. Ce sera un peu plus lumineux sur le nord-ouest et entre les Pyrénées et la région Rhône-Alpes, et ça toute la journée. Partout ailleurs, ça restera très nuageux avec du vent. Côté température, la minimale sera cet après-midi de 7 degrés à Metz, la maximale de 15 degrés à Perpignan. Il en fera 10 à Paris. Puis une petite tendance pour la fin de la semaine, avec demain vendredi la journée la plus pluvieuse et venteuse de la semaine, la journée la plus moche, on peut le dire. Ce sera plus calme.
Comme vous y
c'est vrai. Des Pyrénées à la région Rhône-Alpes. Et puis samedi, de la pluie pour la moitié sud, du soleil pour la moitié nord. Dimanche, c'est l'inverse. Hein. Il va bien pleuvoir sur la moitié nord avec du vent. Et les températures, là, par contre, seront douces. On se dirige vers un Noël très doux. On l'avait dit en début de semaine, ça se confirme.
Avec tous ces nuages, elle est notre soleil. Eva Rock, vous êtes
oui,
en
presque.
Contact avec nos auditeurs.
On vient d'en parler. Vous savez que Kylian Mbappé a 20 ans. Il s'imaginait footballeur quand il était enfant. Il a réalisé son rêve. Et depuis ce matin, 5h, on demande aux auditeurs à quoi ils rêvaient quand ils avaient 20 ans. Eh bien, Rudy nous dit « J'ai 60 ans aujourd'hui. Et quand j'avais 20 ans, je ne rêvais pas d'un destin personnel, mais d'un monde plus juste et plus harmonieux. Et c'est pour cette raison que je suis devenu enseignant. » Christophe, lui, nous dit « Je rêvais d'être vétérinaire et je me retrouve jardinier. » Bon, les études étaient un peu moins compliquées. Et Kamel, lui, rêvait de devenir un grand médecin. Et puis, faute de budget, il s'est quand même spécialisé dans l'électricité. Et puis, on a Suzy aussi, qui nous dit « Je rêvais depuis mes 10 ans de monter à Paris et de devenir scénariste et travailler dans la production de cinéma. » Et bien, 2 ans après mes 20 ans, beaucoup d'audace et de travail, le rêve était réalisé. Et maintenant, après avoir arrêté la production, bien, je rêve de revenir dans le Sud. Voilà, comme quoi on peut faire les allers-retours.
Et vous, Eva, votre rêve est devenu
réalité ? Restez avec vous.
Restez
oui.
avec moi,
oui,
je
bien sûr.
Bien hein. sûr.
Voilà.
Ouais.
Ta faillote.
Faux cul. Merci à vous, chers auditeurs.
Europe 1. Il est 6h41, Mathieu Noël.
Vous écoutez Debout les copains, 2 heures pour tout comprendre de l'actu sans jamais oublier d'en rire. À suivre.
Politique, économie, médias, ils sont au journalisme ce que les cœurs de l'armée rouge sont au rock'n'roll. Les trois fantastiques affûtent leurs arguments, au sommaire notamment un combat épique qu'on n'avait pas vu venir autour du dossier Ascoval, le combat Emmanuel Macron-Xavier Bertrand. Xavier Bertrand dont on n'avait pas entendu parler depuis un moment et qui l'a ressurgi.
Un peu comme la chanteuse Jeanne Masse.
C'est pas faux, c'est pas faux.
Il est 6h44, l'essentiel de l'actualité, Mathieu Noël.
Les mesures promises par Emmanuel Macron aux Gilets jaunes devant l'Assemblée. Aujourd'hui, les députés doivent voter en urgence la hausse de la prime d'activité, la défiscalisation des heures supplémentaires et la suppression de la CSG pour les retraités. La fronde des policiers a finalement payé. Après une journée morte dans les commissariats, les syndicats ont obtenu des hausses de salaire, 120 à 150 euros après une longue soirée de négociations. Enfin, du foot, l'OM en plein doute, éliminé hier soir par Strasbourg en 8e de finale de la Coupe de la Ligue après la séance des tirs au but.
Europe 1, 5h, 7h, Mathieu Noël.
6h44 sur Europe 1 et en direct du studio flambant neuf Pierre Belmar. Nous, c'est la première fois que nous sommes dans ce studio. C'est là qu'aura lieu la matinale de Nikos Aliagas dans quelques instants. L'heure de retrouver pour l'instant la fine fleur du journalisme français. On les appelle les trois fantastiques et chaque matin, ils se montrent à la hauteur de cet ambitieux surnom, sauf parfois...
Baladur, baisse ton cip.
Michel Darmon pour la politique, Axel de Tarlé pour l'économie et la gaudriole, Eva Rock pour les médias, trois figures du journalisme qui savent qu'un grand pouvoir s'accompagne toujours d'une grande solitude, comme Roger Hanin dans l'épisode 228 de Navarro, Bain-Marie contre le gang des Renaud Fuego.
En contrepartie, je sais qu'on est toujours seul. Comme dans les westerns, le shérif est toujours seul quand il affronte les méchants.
Et non, Michel Darmon, vous n'êtes pas seul. Nous sommes là autour de vous ce matin. Au terme d'un long bras de fer avec la justice, l'usine d'acierie Ascoval est sauvée. Un repreneur belge est autorisé par le tribunal de Strasbourg à faire repartir l'activité. C'était un dossier porté par le président des Hauts-de-France, Xavier Bertrand.
Et oui, et qui confirme d'ailleurs sa place singulière dans le paysage des élus à droite. Il avait vivement interpellé le gouvernement, puis le président sur Ascoval et mis les pouvoirs publics au pied du mur. On était alors à la veille de l'itinérance début novembre, avant les Gilets jaunes, c'est-à-dire il y a un siècle. Mais déjà, pour répondre aux questions de pouvoir d'achat, Emmanuel Macron s'était inspiré des dispositifs mis en place dans la région, comme la prime kilométrique, le chèque énergie, etc. Et même le permis de conduire à 1 euro. Et dernièrement, eh bien, c'est Xavier Bertrand qui propose l'idée de la prime exceptionnelle à verser aux salariés sans charge versée donc, par les entreprises. Une mesure prise par Emmanuel Macron qui lui a encore une fois dit « Tu vois, je prends tes idées », lui fait remarquer le président de la République.
Et c'est étonnant même cette relation. Pourquoi Macron s'inspire ainsi de Xavier Bertrand ?
Alors Bertrand face à Macron, c'est « Un jour je cogne, un jour je coach ». C'est vrai, hein, leur relation est hors norme entre les deux. À chaque fois qu'ils se parlent, c'est jamais tiède. Fin octobre, tenez, le rendez-vous fait des étincelles. Xavier Bertrand a expliqué au président de la République qu'il ne pouvait pas être rempart deux fois contre le Front National en étant aussi faible et que s'il voulait bien un jour écouter, eh bien, il lui conseillait de laisser tomber cette taxation prévue sur le diesel. On a vu ce que ça a donné presque deux mois plus tard. Le président, à ce moment-là, avait répliqué dans la presse en parlant de démagogie. Qui parle ainsi au président de la République aujourd'hui ? Eh bien, plus grand monde. Il va y avoir donc effectivement un échange d'intérêts bien compris entre les deux. Macron montre qu'il écoute un élu important donc, sur le plan local. Et lors de la grande consultation téléphonique, effectivement, la semaine dernière, ils ont encore longuement échangé. J'ai échangé sur les gilets jaunes. En fait, qu'est-ce qui se passe ? Macron se sert du président des Hauts-de-France pour continuer à diviser la droite et décerne ainsi à Bertrand eh bien, qui veut construire son projet présidentiel, un certificat d'opposant constructif avec son dialogue direct. Et entre les deux hommes du Nord, hein, parce qu'un est Picardie, l'autre est d'Amiens, eh bien, la bataille des ch'tis ne fait que commencer.
Beaucoup de calculs donc, derrière tout ça, on le comprend. Michel Darmon, merci beaucoup. C'était la politique. On passe à l'économie avec Axel de Tarlé. Si loin de moi ce matin dans cet immense studio, Pierre Belmar à l'autre bout de la table. Axel de Tarlé, l'Airbus du rail, comme on l'appelle, est en danger. La fusion Alstom-Siemens, qui doit donner naissance à un géant européen du train, pourrait être abandonné.
Oui, et ce serait dramatique. Et c'est là un combat que nous devons tous mener en Europe, sauver notre Airbus du rail. Alors, je vous explique le contexte. Le TGV, c'est une fierté française. Et le train, il a été inventé en Europe. C'est quelque chose, nous avons toujours eu le leadership. Enfin, partout quand on va dans le monde, on était très fiers de nos TGV qui filaient à 300 km/h. Ben, sauf qu'il faut se mettre à la page. Vous savez qu'en quelques années, les Chinois ont construit un réseau TGV de 25 000 km, 10 fois plus grand que notre réseau TGV. Si vous avez la chance, moi je ne connais pas, mais si vous avez la chance de faire Pékin-Shanghai, ce sont deux villes éloignées de 1300 km, ils ont fait un TGV entre Pékin et Shanghai qui file à 350 km/h. Donc en 4h15, le TGV met 4h15, vous pouvez faire ce trajet qui vous coûtera à peine 75 euros. Bref, on le voit bien, le leadership en matière de train, il est en train de passer en Chine. Et du coup, ça a une contre-réaction en Europe, c'est que les deux frères ennemis du rail en Europe, il y avait deux... qui se regardaient en chien de faïence, c'était Alstom, le français, qui fabrique nos TGV,
et en Allemagne, c'est Siemens qui fabrique l'ICE allemand. Eh bien, face à cette menace chinoise, les deux frères ennemis ont décidé de fusionner. On a parlé de l'Airbus du rail, hein, pour faire un géant européen. Ça ne s'appelle pas Airbus, ça s'appelle Railbus. Et voilà, et l'objectif, c'est de damer le pion et de conserver ce leadership face à l'émergence de ces nouveaux de ce nouveau géant chinois.
Ah, la Commission européenne tique un peu et pourrait s'opposer à ce mariage. Pourquoi ?
Voilà, alors c'est ça qui est extraordinaire, c'est qu'on attend de l'Europe qu'elle favorise l'émergence de géants européens.
Qu'est-ce qui se
passe ? Eh bien là, elle tique. Pourquoi ? Eh bien, elle dit, ah, si on fusionne Alstom et Siemens, ils vont être trop forts tous les deux ensemble, ils vont être trop dominants, et donc il n'y aura plus de saine concurrence en Europe. Donc, il faut que vous restiez séparés. Alors, donc, c'est une argumentation qu'on peut entendre, sauf que figurez-vous, quand on pose la question à la SNCF qui achète des trains, qui achète du matériel, donc elle devrait être sensible à cet argument, il faut qu'il y ait de la concurrence, etc. La SNCF vous dit, pas du tout, il faut fusionner Alstom et Siemens, parce qu'ils sont trop petits, ces deux, le français et l'allemand, et si jamais ils sont trop petits pour grandir, pour innover, pour inventer, le patron de la SNCF m'a dit, quelle est l'innovation d'Alstom ces dernières années ? Qu'est-ce qu'ils ont inventé de nouveau ? Vous voyez, ils n'arrivent plus à avoir une recherche et développement suffisante pour s'affirmer dans l'avenir. Et donc, même le patron de la SNCF appelle de ses voeux cette fusion. Ce serait quand même bien dommage que l'Union européenne, pour des histoires de concurrence qui n'intéressent qu'elle, j'ai envie de dire, finisse par faire capoter cette fusion. Écoutez, on espère qu'elle va aller à son terme. On espère qu'on verra un air rail, donc un... Non, un rail bus, pardon, je mélange. Le verdict, c'est d'ici le 18 février, mais on est tous derrière ce beau mariage franco-allemand qui est en train de se profiler à l'horizon à la vitesse du TGV.
On croise les doigts. Merci Axel de Tarlet. Eva, on pose la question rituelle. Qu'est-ce qu'on regarde à la télé ce soir ?
Peut-être que certains d'entre vous se souviennent de cette musique, Carmina Burana, en guise de générique d'une émission mythique qui a été diffusée entre 1972 et 1989. 3 heures de spectacle animé par Jacques Chancel à l'époque. C'était le temps du grand échiquier. En 2015, France 2 avait ressuscité le programme le temps d'une soirée hommage à Jacques Chancel. Et puis l'idée d'un retour de façon récurrente a germé. Et voilà donc le grand échiquier, nouvelle génération, avec Anne-Sophie Lapix, en maîtresse de cérémonie. Elle s'inquiète d'ailleurs de savoir si son invité, un de ses invités, Daniel Auteuil, sera bel et bien là. Coup de fil à son agent. En fait, c'est Mathias dans la série 10% qui se trouve aux côtés de Dominique Besnéard, autre agent de star.
Daniel Auteuil sera sur votre plateau le 20 décembre. C'est organisé.
Mais qu'est-ce que tu racontes ? Il est en Slovénie.
Ah, ça me rassure. Parce que bon, on a quand même prévu plein de surprises pour lui et Roberto Alagna.
Dis à la pique de décaler le tournage.
Et Roberto Alagna, on le décale aussi ?
Roberto Alagna, je le connais, il pourra décaler.
Oui, il y aura aussi Aurélie Dupont, Alexandra Courjac, l'Orchestre National de Lille au grand complet.
Les 100 musiciens ?
Oui.
Là, je peux pas appeler tout le monde. Hein.
Bon, bah parfait. On se dit au 20 décembre alors.
Bande annonce drôle et très réussie pour l'émission qui sera diffusée au joie en direct depuis le Palais des Beaux-Arts de Lille. Pléiade d'artistes, de l'art sous toutes ses formes, de l'intelligence, du spectacle, tout sous l'œil du réalisateur François Göttgeber qui maîtrise parfaitement ce genre de production. Alors autant dire que les éléments sont réunis pour faire de cette émission un très beau moment de télévision. Le grand échiquier a-t-il bien vieilli ? A-t-il encore sa place sur nos écrans ? Moi j'aurais tendance à répondre oui immédiatement.
Mais surtout qu'il va être un peu réinventé là,
j'imagine. J'espère bien. Il y a une quinzaine d'artistes qui vont venir en plus des têtes d'affiche. Verdict ce soir, une fois que nous aurons découvert l'émission. Une émission...
Bon, moi, je vous donne le verdict avant.
C'est vrai.
Sophie Lafix, c'est quelqu'un de top. Ouais. Ça va être super.
Et vous allez pouvoir entendre notamment cette voix, celle de Roberto Alagna. Il sera vraiment là. C'est à 21h ce soir sur France 2 en direct.
Merci beaucoup Eva Rock, merci Axel de Tarlet, Mickaël Darmon. L'équipe des 3 Fantastiques sera de retour demain, peu avant 7h moins le quart.
Il est 6h52, Mathieu Noël.
Dans quelques instants, Debout les copains cédera l'antenne à la matinale de Nico Saliagas. Matinale émouvante ce matin puisqu'elle se fait en direct du tout nouveau studio Perlbamar où le public est déjà chaud comme la braise.
N'est-ce pas ?
Tu peux venir serein Nico, j'ai bien chauffé la salle. Ah, je sais pas si je vais réussir à les tenir.
Il est 6h54, Mathieu Noël.
Chers auditeurs d'Europe 1, pour tous ceux d'entre vous qui n'auraient pas pu venir ce matin pour assister en direct à la matinale de Nico Saliagas dans notre nouveau studio Perlbamar, même si mathématiquement, vu qu'il y a 187 personnes dans le studio, vous êtes tous quasiment là, c'est avec beaucoup d'émotion que j'aborde ce passage d'antenne, car vous le savez, à 6h54 chaque matin, le meilleur est à venir. Le débrief de la matinale de Nico Saliagas, débrief que je dédie évidemment ce matin à feu Pierre Belmar, dont ce studio porte le nom. Pierre Belmar, génial créateur en France du téléshopping, et dont nous avons la chance de compter encore parmi nous aujourd'hui un des disciples en la personne de Laurent Cabrol. Laurent Cabrol qui dans sa carrière a lui aussi été une figure du téléshopping. Raclette à peau morte, presse à grume télescopique, slip chauffant, klaxon fantaisie pour Fiat Multipla. Lolo a tout vendu. Et quand je dis tout, genre vraiment tout.
En téléshopping, un jour j'ai vendu un poste de radio intégré au papier toilette. Et on a vendu trois.
Et oui, l'esprit de Pierre Belmar souffle encore sur cette maison. Même Nico Salegas emprunte à Pierre des réflexes de vente précieux quand il s'agit de teaser, comme on dit, les sujets à venir. La devise de Nico, ne jamais hésiter à en faire des caisses. Vas-y. Comme hier, pour vendre le sujet innovation d'Anis Mbida sur le métro du futur, métro ultra rapide inventé par Elon Musk, pour appâter le chaland, Nico n'avait pas hésité à annoncer une vitesse de pointe de 240 km/h pour ce métro. Il n'était pas loin.
Le premier tunnel de son futur métro qui roulera à 240 km/h en plein ville à Nice. C'est un petit tronçon de 2 km pour 200 km/h, ça fait combien?
Pour le moment, la voiture, elle ne roule qu'à 80 km/h. Hein.
C'est tout. Bon, ok.
Attention! Attention Nico, être un bon vendeur c'est une chose, mais quand on promet trop, on prend le risque de décevoir le client. Je vois moi par exemple avec Céline Dacosta, je lui avais un peu vendu du rêve et puis finalement...
3 minutes, t'es sûr?
Elle était déçue. Bref, Nico, bravo d'avance, je sais que ce matin vous serez une fois de plus à la hauteur. Si je peux me permettre, mais c'est vraiment de l'ordre du détail, peut-être juste faire attention à ce que vos phrases soient bien cohérentes. Hier par exemple...
Si vous êtes en voiture, on vous accompagne dans les transports en commun.
Si vous êtes en voiture, on vous accompagne dans les transports en commun. Bon, enfin, tout ça, c'est évidemment du détail. D'autant qu'à 4 jours des fêtes, loin de moi l'idée de briser l'esprit de Noël. En cette fin décembre, on pardonne à tous ceux qu'on aime. C'est pourquoi je vous propose d'ailleurs, plutôt que de conclure par une vacherie, de conclure avec notre séquence Magie de Noël. Qui incarne le mieux la magie de Noël que Laurent Cabrol?
Vous en avez une histoire de Noël, Laurent Cabrol?
Moi, je suis mon pouce.
Ah bon?
Maintenant, je mouille mon doigt.
Ouais. Ah oui. Joyeuse fête quand même.
Bravo Mathieu Noël, bravo.
Et bonne journée à vous Nico Salegas.
Bravo et baroque.
Mathieu Noël, tous les jours de 5h à 7h sur Europe 1.